talons du cul.
C'est l'heure de parler gaming dans la Geek Nation.
Let's go.
Let's rock.
Et talons du cul te dit bonjour.
Impeccable.
Je t'avais prévenu.
Ouais, impeccable. Bon, moi, j'ai pas de poney en diamant, mais bon.
Bon, eh bien, de quoi vas-tu nous parler, Arnaud ?
Alors, attendez, d'abord, je vais allumer mon PC.
Il fallait faire ça avant.
Non, mais j'ai pas beaucoup de batterie, alors.
Bon, bah, va falloir meubler, maintenant.
C'est ça, bon, c'est bah, il y en a derrière toi, par exemple, des babs, si tu veux. Alors, oui, moi, bonjour, j'adore faire des blagues.
Oh, mon Dieu.
Je veux pas faire de la
Ils ont tué Kenny. Oh.
Espèce d'enfoiré.
Quelle soirée.
Il y avait Christophe Lemoine, désolé.
Ouais. J'ai pas faire de la promo, mais un Mac, ça s'allume très vite. Et ça part très vite, donc il n'y a vraiment aucun problème.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Voilà, je suis prêt. Alors,
de quoi vas-tu nous parler ?
Et à quel moment faut envoyer la musique ?
Bah déjà, commence par dire ce que tu vas faire.
Ok, d'accord. Alors moi, je vais vous parler de la Fondation SCP.
Oula !
Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent.
Absolument pas.
Et ben, c'est
ah, c'est glauque tout ça.
Et ben, c'est parfait.
Et ben voilà.
Ouais, on va commencer par la Fondation SCP. Alors je vais commencer par faire une petite présentation de la Fondation. Alors la Fondation SCP, c'est une organisation secrète séculaire avec des moyens apparemment infinis qui applique son emprise partout à travers le monde. Et son but, c'est de contenir et sécuriser des anomalies. Ils ont pour objectif de protéger le monde de la connaissance de ces anomalies, donc personne ne doit être au courant que ces anomalies existent, un peu comme les Men in Black, sauf que c'est un peu plus et un peu moins extraterrestre. Chaque personne dans la Fondation occupe une place, a un rang, qui est plus ou moins important en fonction des informations dont il a connaissance. Et je vais détailler un petit peu comment fonctionne l'organigramme de la Fondation. Alors pour commencer, on a les classes A. Les classes A sont les membres vitaux de l'organisation. Eux, ils ne doivent jamais s'approcher d'une anomalie parce que leurs informations sont trop importantes et il ne faut surtout pas qu'ils soient plus là. Les classes B, c'est des membres essentiels au niveau local. Ils peuvent de manière exceptionnelle être en contact avec les anomalies, mais il vaut mieux éviter. On a les classes C, c'est des membres de travail au quotidien auprès des anomalies, pas particulièrement dangereuses. Il y en a qui sont plus dangereuses que d'autres et les classes C ont le droit d'approcher celles qui ne sont pas trop dangereuses. En cas d'accident, ils sont un peu sacrifiables. La classe D, c'est le personnel renouvelable. La plupart du temps, c'est des prisonniers accusés de crimes atroces, ou alors des condamnés à mort, et ce sont eux qu'on envoie au contact des anomalies les plus dangereuses, histoire de savoir comment elles fonctionnent et quels sont leurs dangers potentiels. On a aussi les classes E. Les classes E, c'est des agents mis en contact avec les anomalies et mis en quarantaine le temps de retrouver leur classe d'origine.
Jusque-là, c'est des fonctionnaires du ministère de la Culture.
C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Tout le personnel de la Fondation est dirigé par un conseil, et ce conseil, on l'appelle le conseil O5. Ce conseil O5, c'est des gens tellement haut classés qu'on n'a quasiment aucune information sur eux, et il faut diguer pour les avoir. On dit qu'il pourrait y avoir 13 membres dans le conseil, 13 sièges disponibles.
Tu m'entends ? Ouais, je t'entends, mais c'est un peu à la gauche.
D'accord. Il y a 13 membres donc, du coup, dans le conseil, mais on ne sait pas combien de personnes ont occupé ces places, ces sièges, et pendant combien de temps. Certaines personnes, possiblement, sont là depuis des centaines d'années, et ils ont amélioré leur durée de vie grâce à les SCP. Je vais parler un peu plus en détail de ce que c'est les SCP et ce que sont les anomalies. SCP, ça veut dire Special Containment Procedure, donc procédure de confinement spécial. Et leur logo, c'est sécuriser, contenir et protéger. Chaque anomalie, c'est un SCP, et chaque SCP a un numéro et un nom. Je vais en parler un peu plus en détail après, bien sûr. Du fait de leur anonymat, les membres du conseil ont souvent des surnoms un peu chelous, du genre malchance, celui qui patiente, le pilote, on a le père du mensonge aussi, qui est plutôt stylé, le général fou, le cardinal, et il y en a des tas comme ça. Alors, au niveau des anomalies, toutes les anomalies sont consignées sous forme de rapport sur le site de la Fondation SCP. Le premier rapport original a été écrit par Wesley Williams en 2007, il me semble, et c'est le SCP-173. Je vais en parler un peu plus en détail après. À la suite de ça, il y a des milliers de gens à travers le monde entier qui ont écrit des rapports sur les SCP. les rapports sont toujours faits de la même manière. Ils commencent par les procédures de confinement de l'anomalie, et ensuite un détail de l'anomalie, et possiblement, si on peut interagir avec l'anomalie, une sorte de, bah, d'interrogatoire de l'anomalie. Donc ces anomalies, ou SCP, sont classées selon différentes catégories. On a les catégories sûres, c'est des anomalies qui sont assez bien comprises, qui peuvent être confinées de manière permanente sans aucun risque, sont dotées de propriétés qui ne s'activent qu'en réponse à une action ultérieure. Du coup, c'est très simple de les garder. On a les Euclides, qui est la classe intermédiaire, qui désigne une anomalie susceptible de rompre son confinement, mais normalement incapable de le faire si les procédures sont bien mises en place. On a les anomalies Keter, qui sont très compliquées à confiner, qui c'est très risqué de les garder, et qui possèdent un danger vraiment exceptionnel. Et on a les anomalies Tomiel, qui sont des anomalies hautement secrètes, extrêmement rares, et qui sont souvent utilisées par la Fondation pour confiner d'autres anomalies avec d'autres niveaux de caractéristiques. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, la Fondation SCP, c'est mignon, tout ça, ça fait peur ou pas.
Mais c'est quoi?
Qu'est-ce que c'est? Alors, j'y vais en venir en détail, mais surtout, quel rapport avec le jeu vidéo? Alors, c'est super sympa de poser la question.
Pardon.
Il y a pas de souci.
Écris-moi les relances.
Non, c'était fait exprès. Et alors, la Fondation SCP, c'est tellement gros comme concept, c'est tellement énorme. Il y a des milliers de personnes qui ont participé à ça sur le site, tout le monde écrivant un rapport sur un SCP différent. Il y en a des nombres à peu près 12 000 en ce moment. Et de partout dans le monde, vraiment, les plus actifs, c'est surtout les Américains et les Japonais qui écrivent beaucoup sur ces rapports. Et du coup, ça, c'est vraiment un terreau très fertile pour le jeu vidéo et surtout la scène indé. Il y a un jeu qui n'est pas vraiment indé, qui est plutôt un triple A, qui c'est Control, peut-être vous connaissez, qui est, c'est pas vraiment sur la SCP, mais c'est grandement inspiré. Les développeurs l'ont dit dans une interview, c'est la Fondation SCP qui nous a motivés à faire ce genre de truc. Et moi, je vais vous parler d'un jeu en particulier. Mais avant ça, je pense que vous connaissez le jeu qui avait fait pas mal de Twitch à l'époque, où des mecs ils descendaient un escalier sans fond, comme ça. Et ils se filmaient, et le but, c'était de voir leur réaction avec tous les jumpscares qu'il y avait et tout. Ce jeu-là, c'était un jeu sur le SCP-087. Donc, un exemple de SCP. Le SCP-087, c'est un escalier sans fond et qu'il n'y a pas de fond. Tu peux essayer de le parcourir, tu le termineras jamais, tu mourras forcément avant. Ça, c'est une anomalie. Donc les anomalies, ça peut être ce genre de choses. Le jeu, bon, c'était pas extraordinaire. Il y avait des jumpscares, puis au bout d'un moment, tu meurs. Bon, voilà, en termes de gameplay et de richesse de gameplay, c'est pas extraordinaire. Moi, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle SCP Containment Breach, donc brèche de confinement. C'est un jeu indé de type survival horror, à la première personne. Il est sorti en 2012 et il a été développé par un gars qui s'appelle Jonas Rikkonen. C'est un Suédois.
Ça se reconnaît.
Exactement.
Tu m'aurais dit qu'il est japonais, j'aurais un peu de mal.
J'aurais pu le tenter, mais effectivement. Ce jeu, il est sorti de manière un peu remasterisée avec pas mal d'ajouts que la communauté a fait en 2022 sur Steam. Et c'est un jeu gratos. Donc déjà, ça c'est cool. Il est très amateur quand tu vois les graphismes, c'est typiquement Half-Life, mais le premier. C'est ce concept-là.
On rappelle, Half-Life, c'est 99.
Voilà, c'est vraiment un vieux truc, quoi. Mais c'est pas le graphisme le plus important. En termes de gameplay, c'est à peu près comme Half-Life, sauf qu'il n'y a pas d'armes. On n'est pas sur un concept de flingue ou quoi que ce soit. Tout le sel du jeu va être d'interagir avec toutes les anomalies qu'on va y trouver et essayer de survivre à celle-ci. On y incarne D9341, donc un personnel de classe D. Si vous avez bien retenu, le classe D, c'est les condamnés à mort, mm-hmm. qu'on utilise pour connaître les anomalies. Et au début du jeu, justement, on est face à une anomalie, la fameuse SCP-173, qui a été écrite dans le tout premier rapport. Et en interagissant avec cette anomalie, le jeu se lance et on essaie de comprendre quelles sont les mécaniques. Donc c'est un jeu d'horreur. Vraiment, c'est un jeu d'horreur. Et le concept de ce genre de jeu-là, pour pousser le côté horrifique, c'est essayer de faire en sorte que le joueur ne comprenne pas trop les mécaniques qui sont mises en place. Parce qu'une fois qu'on commence à comprendre comment un jeu fonctionne, il nous fait plus peur. Là, le concept de ce jeu, c'est vraiment d'utiliser tous les SCP possibles pour flouter toutes les mécaniques et jamais trop savoir ce qui se passe. Je vais le détailler parce que c'est vraiment bien foutu. Il faut rappeler que c'est fait que par un seul gars, tu vois. Et je vais détailler ça. Mais avant, je vais détailler quelques SCP pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Je vais commencer par le SCP original, SCP-173. Alors, le SCP-173, c'est une statue immobile en béton avec un petit peu des morceaux de béton qui s'en vont. Donc, on voit les barres de fer qui sont dans les coulures de béton. Elle est peinte. Enfin, peinte comme si quelqu'un avait fait un graffiti sur un mur, quoi. Et cette statue, elle a comme particularité que tant qu'on l'a dans le champ de vision, il ne se passe rien. Mais dès qu'on la quitte, une fraction de seconde, elle étrangle quelqu'un.
C'est un ange pleureur, en pire.
C'est exactement ce concept. C'est exactement le concept de l'ange pleureur. Donc, le début du jeu nous met face à cette SCP-173 avec d'autres prisonniers à mort, justement. Et on voit qu'en l'espace d'un clignement d'yeux, elle tue les deux personnes. Et nous, on a quelques secondes pour s'enfuir, ou sinon, c'est notre tour. On peut mourir pour comprendre la mécanique qu'il faut s'enfuir, mais comme c'est le début du jeu, c'est pas très grave de mourir au tout début, ça relance tout de suite, il n'y a aucun problème. Je vais présenter d'autres SCP. Il y en a un, c'est le SCP-096. Le SCP-096, c'est l'homme timide. Alors, il est inoffensif, il n'est pas intelligent, il est conscient, mais pas intelligent. Il se balade innocemment, mais c'est une sorte d'humanoïde assez grand avec des membres très longilignes, tout nu, vraiment particulier. Sa particularité, c'est que si on regarde son visage directement ou indirectement, ça peut être une photo, un enregistrement, n'importe quoi, eh ben on est violemment décédé. Et le rapport qui parle de ce SCP indique pas ce qui reste de la victime, puisqu'on n'en retrouve jamais une trace. Donc, c'est particulier. On a un autre SCP, c'est le 372. C'est une sorte de mante religieuse gigantesque et quasiment invisible. Elle a la capacité de se placer dans les angles morts de la vision en anticipant le mouvement des yeux, en percevant les signaux électriques qui tracent les nerfs. Donc, on ne pourra jamais vraiment avoir un contact visuel sur cette créature, parce qu'elle se déplace tout le temps. Donc, elle n'est pas vraiment invisible. Mais vu qu'elle sait où est-ce qu'on regarde, elle se planque toujours. Et dans le jeu, ça se traduit par, de temps en temps, on va tourner la tête et on va croire qu'on voit quelque chose, et puis ça s'évanouit instantanément. Elle est inoffensive, mais dans un jeu où tout repose sur qu'est-ce qui se passe autour de nous et on peut mourir tout le temps, ça rajoute quand même au sel. Et le pire, c'est qu'en fait, elle est enfermée dans une gigantesque pièce avec des vitres, et on peut la libérer en voulant rentrer dans cette pièce sans forcément savoir qu'elle est dedans, puisqu'on ne la voit pas. Et le jeu est assez bien foutu pour ça. Il y a SCP-205. SCP-205, c'est une paire de projecteurs qui, quand ils sont ensemble et allumés, projettent sur un mur l'ombre d'une femme qui suit un scénario sur une période d'environ 6 mois et qui se termine par sa mort provoquée par des silhouettes cornues avant que le cycle ne redémarre. Si quelqu'un se trouve dans la pièce où est projeté ce film, et ben, les silhouettes cornues s'en prennent à cette personne, au lieu de la femme. On a aussi SCP-914. C'est une grande machine qui possède une entrée et une sortie, et qui a pour fonction de transformer un objet en autre chose. Tout ça, c'est des SCP présents dans le jeu. Cette machine possède 5 réglages. Il y a le réglage Course, qui désassemble l'objet donné. On a le réglage Wolf, qui dégrade l'objet donné. On a le 1 pour 1, qui transforme un objet en quelque chose de proche. On a le Fine, qui l'améliore un peu, et le Very Fine, qui l'améliore beaucoup. On n'est pas obligé de mettre des objets, on peut mettre autre chose dedans. On peut mettre des SCP, ou nous-mêmes, et voir quels effets peuvent être sur nous-mêmes aussi. Le SCP-970, c'est un phénomène spatial qui peut survenir n'importe où et qui se réplique autant autour de ses manifestations précédentes. C'est-à-dire que c'est un couloir avec des pièces autour, et en traversant les pièces, on se retrouve dans ce couloir à l'infini. À chaque itération, il va y avoir un petit changement dans ce couloir, et au début, ça peut être juste un gobelet qui est mal placé, et au bout d'un moment, ça peut être du sang qui coule sur les murs ou ce genre de choses. On a aussi SCP-106, qui se fait appeler le vieil homme. Il peut apparaître n'importe où, trace les portes, il sort de nulle part. Et une fois qu'il t'attrape, il t'emmène dans une dimension de poche dont il est difficile de s'extraire. Donc tout ça, ça sert à quoi ? Tout ça, ça participe à nous donner un côté, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On va trouver des documents, on va trouver pas mal d'enregistrements qui vont parler ou des SCP, ou alors de la vie à l'intérieur du complexe dans lequel on est et qu'on essaie de s'échapper. En trouvant les documents, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les SCP, et ça va nous débloquer un peu plus de connaissances sur tout ce qui se passe, histoire de contrôler un peu notre environnement, parce que sinon, on est juste une victime, quoi. Et c'est vachement bien foutu, parce qu'il y a environ une cinquantaine de SCP, je ne les ai pas tous détaillés, hein, c'est pas l'idée, mais dans un jeu d'horreur où, par exemple, tu peux voir un nounours sur le sol, le frôler, et quelques minutes après, mourir, parce que tu as des oreilles qui t'ont poussé un peu partout dans le corps, et comme tu ne comprends pas trop ce qui se passe, il faut essayer de trouver le maximum de documents qui développent un peu plus les SCP. Donc c'est pour ça que je parlais de survival horror. Le jeu, on n'a pas d'armes, on est à la merci d'un peu tout, on peut mourir n'importe comment, on peut mourir des fois on ne sait pas pourquoi, enfin souvent on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, et une fois qu'on chope des lunettes de vision nocturne par exemple, on peut voir qu'il y a des êtres un peu humanoïdes qui nous pourchassent et dès qu'ils nous attrapent on est mort. Donc il faut essayer de jouer avec tout ce concept. Le jeu est très souvent sombre, les SCP sont assez effrayants ou grotesques pour la plupart. Du coup, ça caractérise encore plus l'idée de l'isolement, puisqu'on ne comprend pas trop, on ne voit pas grand-chose. Donc en termes de graphisme, comme on l'a évoqué, ce n'est pas terrible, terrible, mais le jeu a énormément de force, donc en comptant les SCP et comment ils sont installés. Il y a aussi des musiques d'ambiance extraordinaires. Il y a des bruitages tout le temps qu'on entend, des bruits métalliques au fond, des hurlements lointains, des bruits de respiration, ce genre de choses. Le personnage fragile aussi, qui est un concept qui rajoute au côté survival, parce que si on mourrait jamais, ce serait vraiment pas drôle. Le personnage est plutôt lent, il n'a aucune arme, comme je l'ai explicité tout à l'heure, donc du coup, ça rajoute encore au côté. Et il y a une mécanique qui est super intéressante, parce que je vous ai dit, si le SCP sort de notre point de vue, on est mort. Si le SCP, on le regarde dans les yeux, on est mort. On a aussi une mécanique de clignement d'yeux qui va se faire toute seule. Environ toutes les 10 secondes, il y a une barre qui se vide et une fois qu'elle arrive au bout, les yeux se clignent naturellement. Alors on peut la forcer, cette mécanique, c'est-à-dire cligner des yeux exprès pour reset le timer, ou alors maintenir les yeux fermés, histoire de pouvoir passer tranquillement. Cette mécanique, elle rajoute au suspense parce que le SCP-173, la statue, c'est un stalker. Mais tout le long du jeu, elle va être à nos trousses et elle va apparaître de n'importe où. Et du coup, quand on va rentrer dans un couloir et qu'on va la voir, le premier réflexe, ça va être de voir la jauge de clignement d'yeux, à savoir où est-ce qu'on est positionné par rapport à ça, et agir en conséquence. On ne va pas traverser le couloir si on cligne des yeux dans 2 secondes. Et cette mécanique est vraiment, vraiment très belle. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, parce que sinon je vais en parler pendant 30 minutes. Je vérifie si j'ai pas loupé ce genre de truc. Non,
fais le tour, vas-y. Non,
j'ai fait le tour, je pense. Du coup, je conseille ce jeu à tous ceux qui veulent l'essayer, parce qu'il est gratuit déjà. Il se finit assez vite. Il y a différents niveaux de difficulté qui consistent à des possibilités de sauvegarde différentes, parce que faire tout le jeu sans sauvegarde, c'est beaucoup plus dur qu'avec des sauvegardes. Mais même la sauvegarde est quand même punitive, parce que si on a sauvegardé après avoir été en contact avec un SCP et qu'on ne sait pas comment s'en sortir, ben on est foutu, il va recommencer le jeu. Donc du coup, je le conseille. Je conseille aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la SCP, la vidéo de Alt-136 sur le sujet, qui est une très bonne vidéo pour tout le côté fondation et présentation de SCP. Et je conseille aussi la vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Esquive la boule de feu. Et c'est sur sa chaîne à lui que j'ai trouvé justement ce jeu Containment Breach. Et il analyse en détail tout le jeu. Bon, ça dure plus d'une heure, donc c'est quand même vachement agréable. Les vidéos sont super bien foutues. Je le conseille. Je pense que c'est un bon jeu pour Halloween.
Ben merci Arnaud.